Politique américaine, Vincent Gosselin.
Et on est de retour avec notre spécialiste de la politique et de l'actualité américaine, Vincent Gosselin. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Lorrain.
Vincent, on commence aujourd'hui cette chronique avec la gouverneure du Michigan qui ordonne la fermeture d'un oléoduc canadien et ça nous concerne donc de près. Expliquez-nous ce qui se passe.
Oui, Gretchen Whitmer, la gouverneure démocrate de l'État du Michigan, a ordonné la fermeture de la canalisation 5 de l'oléoduc de la compagnie Enbridge d'ici le 12 mai. Bon, le 12 mai, ça c'est mercredi, c'est demain. L'échéancier risque sûrement de ne pas être respecté parce que l'entreprise Enbridge demande qu'il y ait une ordonnance de la Cour pour cesser les opérations. Parce que c'est un échéancier que la gouverneure a donné comme ça, ça vient du politique et non pas d'une ordonnance judiciaire. Mais c'est important pour nous au Canada parce que cet oléoduc-là transporte quotidiennement 540 000 barils de pétrole brut, léger et du gaz naturel aussi. Ça, c'est destiné à des raffineries qui se trouvent au Québec, en Ontario et dans certains États américains aussi. Mais ça touche particulièrement la grande majorité, ça s'en va au Canada. Et la ligne opère quand même depuis 65 ans. Et ça fait dire à la gouverneure qu'il y a davantage de risques de déversement parce que les risques sont exponentiels à vue de, ça fait quand même 65 ans que la ligne est en fonction. C'est un argument de la gouverneure. Nous, de notre côté, si l'oléoduc en venait à fermer, c'est un impact direct. C'est entre autres le 5000 emplois dans la région de Sarnia, chez vous en Ontario. C'est là où 40% de l'industrie pétrochimique canadienne est concentrée. C'est direct là. Sarnia serait touchée par 5000 emplois et des milliers d'autres emplois aussi dans des raffineries de Montréal et de Lévis, entre autres. C'est le ministre fédéral des Ressources naturelles, M. O'Regan, qui a dit ça au niveau des emplois. Parce que la gouverneure va quand même se tenter de faire arrêter l'oléoduc. C'est un engagement électoral qu'elle avait pris parce que l'oléoduc traverse l'État, même s'il part du Canada. Donc, il y a quand même une pétition qui a été faite par 100 000 personnes qui ont signé pour demander au premier ministre Trudeau d'interpeller Joe Biden pour qu'il intervienne, qu'il contredise en quelque sorte une gouverneure de son parti, ce qui est peu probable d'arriver. C'est quand même très délicat en sachant que Justin Trudeau a promis de s'investir de manière acharnée là, dans la lutte contre les changements climatiques. Mmh. Souvenez-vous du premier sommet avec Joe Biden, c'était en virtuel, mais les deux ont pris l'engagement de collaborer sur la lutte au changement climatique. On veut aussi éviter l'escalade des tensions qui étaient à leur apogée sous Donald Trump et on ne veut pas envenimer ces relations-là, encore moins sur un dossier comme l'environnement où on s'est promis de collaborer.
Il y a donc beaucoup d'inquiétudes localement pour l'économie de la région de Sarnia. Et puis on parle également en corollaire d'une cyberattaque qui a forcé l'interruption d'un gazoduc cette fois.
Oui, c'est la Colonial Pipeline Corporation qui est un des plus grands opérateurs de gazoducs aux États-Unis. Quand même un des plus grands opérateurs parce que leur réseau d'oléoducs, là, il part de la côte du Golfe du Mexique, il passe par le Texas, il va jusqu'au nord-est des États-Unis, entre autres dans la grande région métropolitaine de New York. Et l'oléoduc en question qui a dû être arrêté à cause d'une cyberattaque, c'est un qui mesure 8800 kilomètres. Il part du Texas pour aller transporter, entre autres, de l'essence et du diesel au New Jersey. Et là, l'attaque, là, c'est sous forme de rançon GCL. On entend beaucoup, de plus en plus parler, surtout, là, de cette forme d'attaque-là. Mm-hmm. C'est un code qui entre dans un ordinateur, qui dérobe les données de l'ordinateur. On exploite les failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et on exige évidemment une rançon. Selon toute vraisemblance, les pirates n'auraient pas eu accès au système de contrôle de l'oléoduc, mais par précaution, la compagnie a arrêté le fonctionnement du gazoduc en question, qui transporte quand même presque 45% des carburants consommés sur la côte est américaine. C'est 380 millions de litres. On ne mesure pas encore les conséquences économiques de cette fermeture-là. Tout dépendra du nombre de temps de l'inactivité de l'oléoduc. Mais on peut s'attendre à de la variation dans le prix du baril de pétrole, aussi des problèmes d'approvisionnement d'essence pour les voitures sur la côte est des États-Unis et de kérosène aussi pour les aéroports. C'est surtout la région de Mid-Atlantique, aussi une partie du sud-est du pays qui est touchée.
Une incroyable affaire digne du cinéma hollywoodien presque.
Exactement. C'est une cyberattaque qui fait interrompre quand même 8800 km de tuyaux, 45% des carburants de la côte Est. C'est assez impressionnant que ce qu'un petit rançon logiciel peut faire au final.
Et oui, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, on a parlé il y a quelques jours du bilan des 100 jours de Joe Biden, le nouveau président américain. Il y a une déception maintenant du côté de la création d'emplois puisque les chiffres sont tombés pour le premier trimestre.
Oui, on s'attendait au final à 1 million de nouveaux emplois créés pour Joe Biden pour le mois d'avril. Finalement, c'est loin d'être le résultat attendu. Il y a eu seulement 226 000 emplois qui ont été créés en avril aux États-Unis. Ça fait même monter le taux de chômage de 0,1 de point, qui est maintenant à 6,1%. C'est 16 millions de chômeurs qui perçoivent toujours une allocation de chômage à partir de la mi-avril. Là, on a comptabilisé ça à partir de la mi-avril. Et, pardonnez-moi, c'est 22 millions d'emplois qui avaient été perdus entre mars et avril 2020. De ces 22 millions-là, il y en a toujours 8 millions qui n'ont pas été recréés depuis le début de la récession qui était au début du mois de mars 2020 avec les premières mesures de confinement. Même si c'est pas les résultats attendus, ça fait dire à Joe Biden l'importance d'investir dans les infrastructures. Il a toujours son plan de 2000 milliards de dollars dans les infrastructures pour créer de l'emploi. C'est toujours sur la table au Congrès. Ouais. Et du côté des Républicains, ben on s'est empressé de dire, de faire le lien avec les mesures politiques de Joe Biden, qui qualifie d'échec. On dit que ça fonctionne pas ce que Joe Biden a fait, alors que de son côté, lui dit, ben c'est justement la preuve qu'il faut continuer d'investir.
Alors, parlons maintenant de santé publique avec le docteur Anthony Fauci, qui appelle à repenser l'usage du masque.
Oui, il était à l'émission dominicale Meet the Press sur NBC dimanche dernier et il a partagé sa réflexion comme quoi les Américains pourraient être invités ou devraient penser éventuellement à porter le masque en dehors de la pandémie lors des saisons où la contagion des virus respiratoires est abondante pour diminuer la transmission. On nomme entre autres la grippe. Donc, en dehors de la pandémie, quand on va être sorti de tout ça, et peut-être que les Américains vont être invités à continuer le port du masque dans certaines parties de l'année. Aux États-Unis, là, je vous rappelle que les CDC, c'est les agences de santé publique, qui permettent maintenant aux personnes qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin de se rassembler à l'extérieur sans masque, sauf dans une foule, évidemment. Il y a eu un léger desserrement des mesures face au masque à l'extérieur récemment. Est-ce qu'il y a plus à prévoir prochainement? On sait que près de 35% des Américains sont pleinement vaccinés avec les 2 doses. 46% du pays a reçu au moins 1 dose. Est-ce qu'on pourrait attendre prochainement la moitié, 1 Américain sur 2 qui a reçu au moins 1 dose? On verra bien. On sait que la cadence a diminué avec la vaccination. Il y a certains doutes dans la population. On va voir où tout ça va aller. Mais en tout cas, Anthony Fauci, qui est assez positif.
Et on continue dans la politique maintenant américaine avec Liz Cheney chahutée, une nouvelle motion de défiance prévue pour demain mercredi. Est-ce que ces jours sont comptés, parti?
Ben, c'est possible. Kevin McCarthy, le leader de la minorité au à la Chambre, a dit qu'il va organiser une motion de défiance mercredi. Et ça veut dire que c'est la deuxième motion de défiance depuis le mois de février. Madame Cheney, qui est la représentante du Wyoming, est la troisième républicaine en importance à la Chambre parce qu'elle est présidente du caucus républicain. Elle avait été contestée au mois de février. Elle avait survécu au vote de son caucus. C'est un vote de confiance. Et là, il va y en avoir un autre demain. On va voir où tout ça va aller parce que son rôle est assez important comme porte-parole du caucus. Autant elle doit porter le message des républicains à l'interne dans le caucus, mais aussi auprès des électeurs. Et là, à l'approche des élections de mi-mandat en 2022, c'est un rôle qui est crucial. On va voir s'il a toujours la confiance de ses pairs. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que Donald Trump, l'ancien président qui est toujours aussi influent dans le Parti républicain, et Kevin McCarthy, le leader du caucus à la Chambre, ils appuient déjà une autre représentante pour prendre le poste de Mme Cheney. Donc, elle a perdu déjà l'appui de 2 poids lourds du parti. Ils appuient Elise Stefanik, qui a 36 ans. C'est une représentante de l'État de New York, qui a été élue il y a 6 ans comme une modérée, mais elle a changé de cap et maintenant, son appui est conditionnel pour M. Trump. Elle allègue même la fraude électorale. Donc, du côté de McCarthy et de M. Trump, on propose cette femme-là à la place de Mme Cheney pour prendre le poste de présidente du caucus. Donc, ces jours sont peut-être comptés. Elle est controversée là en ce moment, beaucoup de critiques à face à l'ancien président Donald Trump. C'est ce qui lui a valu c'est les critiques de ses collègues, de ses pairs. Mais elle s'est quand même fait du capital politique en attirant beaucoup l'attention médiatique dans les derniers jours. Mm-hmm. Donc même si demain elle perdait son vote de confiance, oui, elle perdrait son poste de présidente du caucus républicain, mais elle demeurerait une républicaine de premier plan à la Chambre et une modérée qu'on entendrait dans les médias lorsqu'il y a une position du caucus qui déplaît. Elle demeurerait quand même avec un capital politique important.
Voilà, le Parti républicain, toujours plus divisé que jamais. On termine avec une page un petit peu plus légère, avec un des grands symboles culturels des États-Unis, le fameux Kentucky Derby. C'est une course de chevaux et c'est un scandale que vous avez voulu nous dévoiler aujourd'hui, Vincent.
Oui, on en a beaucoup entendu parler, entre autres la fin de semaine dernière. Ça a fait les manchettes un peu partout dans le monde, même pas juste aux États-Unis. Il y avait le Kentucky Derby, la course hippique annuelle sur l'hippodrome de Churchill Downs à Louisville, dans le Kentucky. Ça s'est passé le 6 et 7 mai dernier. Et le cheval gagnant, le grand gagnant, il s'appelle Medina Spirit. Et au final, on apprend qu'il a échoué un test antidopage en raison d'une grande quantité de bétamétanose. Oui, c'est un anti-inflammatoire qui est utilisé pour réduire la douleur chez les chevaux. Mais on en a trouvé dans une quantité astronomique, ce qui a fait semer les doutes. D'autres tests devront être passés. Pour le moment, l'entraîneur de ce cheval-là est suspendu. Il va collaborer avec l'enquête. Cet entraîneur-là a quand même gagné à 7 reprises. Mais si le test se confirme, la victoire lui sera retirée. On sait que le cheval en question, il est toujours prévu qu'il participe à la deuxième étape de la Triple Couronne américaine samedi prochain. On va surveiller ça.
Eh bien, merci Vincent pour l'ensemble de ces informations exhaustives et ce point sur l'actualité de nos voisins américains. On continue sur les ondes de Choc FM 105.1.
Merci beaucoup, toujours un plaisir.